Session de philosophie par le Père Marie-Dominique Philippe, le 6 juillet 1992 à Saint-Jeudard. Thème, la vérité.
Je vous salue d'abord. Hier soir, je ne vous ai pas vu. J'avais le chapitre pendant que le père Samuel était là pour vous recevoir. On vous a expliqué un tout petit peu l'esprit dans lequel nous faisons ces sessions philosophiques. Parce que je sais que de temps en temps, ça heurtait certains en disant « Vous faites de la philosophie et cependant on est dans un cadre chrétien ». C'est vrai, il y a un cadre chrétien au carré, puisque c'est une vie monastique, contemplative, dans laquelle nous faisons cette session. Et puis on fait une prière au début. Ça peut paraître tout à fait en dehors et anachronique par rapport à la philosophie. Vous voyez, sans Sorbonne. C'est vrai, j'y pense de temps en temps. Déjà à Fribourg, c'était pas toujours commode. Alors je rappelais régulièrement au début, on fait une prière, vous n'êtes pas obligé de la faire. Mais c'est bon d'avoir 2 minutes de silence. Et les Grecs, Plotin, quand il enseignait et que ça venait difficile, il disait arrêtons-nous et prions. Parce que notre intelligence est quand même faite pour découvrir, comme nous allons essayer de le voir, ce qu'on appelle la vérité. Là aussi, ça peut paraître anachronique. Parler de la vérité aujourd'hui, qu'est-ce qui en parle encore? On cherche la vérité. Je ne dis pas qu'on la possède, puisqu'on dira qu'on la possède. Cherche la vérité. Et chercher la vérité, c'est le bien de l'intelligence. C'est ce qu'on essaiera de comprendre. Et c'est pour ça que ce climat religieux n'est pas un a priori pour le philosophe. C'est sûr, ça l'influence. C'est évident. Ça l'influence sur toute sa vie et donc sur son intelligence. On n'est pas dupe de cela. Et je vois bien personnellement la différence qu'il y a d'enseigner ici, dans un climat religieux, à des frères. Et un enseignement comme j'avais à Fribourg. À Fribourg, c'était une université. Donc national, puisque c'est fédéral. Et le canton de Fribourg est d'inspiration catholique. Et l'université était d'inspiration catholique. Mais ce n'était pas une université catholique. C'était national. Et il y avait un public extrêmement divers. Non seulement européen, mais international, puisque j'ai des étudiants de 40 nationalités là-bas. Ça représentait quand même quelque chose pour une petite université. Cependant, il faut bien comprendre que si la grâce chrétienne ne détruit pas la nature, ce que je suis convaincu, si la grâce respecte pleinement la nature humaine, notre foi chrétienne n'est pas un a priori pour le philosophe. elle maintient pour le philosophe une liberté totale. Autrement, ce ne serait plus la foi chrétienne. Que pour beaucoup de chrétiens, ce ne soit pas vécu, oh, je suis tout à fait d'accord. Beaucoup de chrétiens, ayant fait très peu de philosophie, confondent les domaines. Et ça fait du mal, du reste. Parce que ça fait de l'apologétique. Et l'apologétique n'est pas philosophique. L'apologétique, elle est rhétorique. Alors on plaide une cause. C'est très bien de plaider une cause. Une bonne cause. Mais ça peut être très agaçant pour quelqu'un qui cherche la vérité. Parce que on cherche plutôt le vraisemblable que la vérité. Et on prend tous les arguments qui conduisent vers le vraisemblable. Et on ne cherche pas vraiment la vérité. Nous essayons ici, et surtout dans la session, mais pendant toute l'année, on essaie de faire un cours de philosophie et une recherche de vérité qui repose sur l'expérience humaine. Toutes sortes d'expériences humaines. Mais l'expérience humaine, il y a des expériences négatives, il y a des expériences positives, ça c'est sûr. Je ne dis pas bonnes et mauvaises, mais je dis positives et négatives. C'est comme ça. Je me souviens, il y a déjà un certain nombre d'années, que des amis qui savaient bien la position philosophique qu'on prenait m'ont fait connaître des psychanalystes freudiens qui ont dit, puisque vous vous reposez sur l'expérience, nous aussi nous nous reposons sur l'expérience. Donc on doit pouvoir s'entendre. Et on a essayé d'avoir un dialogue très honnête. Parce que je crois que c'est ce qu'il faut. Si on cherche la vérité, on respecte l'autre. On respecte la personne humaine qui, avec son cheminement, a conclu telle, telle vérité. Du moins, ce qui lui semble telle, telle vérité. Et ce qui me semble telle, telle vérité. On cherche ensemble. Au plan philosophique, les amis, ce sont ceux qui cherchent la vérité. Ce ne sont pas ceux qui disent la même chose. Vous comprenez bien. Ce sont ceux qui cherchent la vérité. On coopère ensemble à cette recherche de la vérité. Et au plan philosophique, c'est saint Thomas qui le dit. J'aime saint Thomas. Au plan philosophique, saint Thomas dit que l'autorité est la dernière des raisons. Quand vous donnez votre langue au chat, philosophiquement parlant, ce qui est assez particulier, quand vous donnez votre langue au chat, vous ne savez plus, vous promenez l'autorité, vous dites « Aristote a dit ça, Platon a dit ça, Marx a dit ça ». Au plan philosophique, c'est la dernière des raisons. C'est le repli, l'infirmerie philosophique. Vous êtes malade, vous ne savez plus quoi dire, alors vous prenez un médicament. Ça marche de temps en temps. Au point de vue de la rhétorique, ça marche très bien. Parce que c'est vrai, quand vous savez qu'il y a beaucoup de gens intelligents qui ont dit la même chose, ça aide. Ça met une piste. Mais l'autorité, au plan philosophique, c'est la dernière des raisons. Pas commode, hein, de se purger de toute autorité. Et je crois que c'est ça que la philosophie tend à nous donner, cette espèce de lucidité pour être attentif à nos expériences humaines. On est tellement peu attentif à nos expériences parce qu'on est souvent téléguidé. On est téléguidé par des a priori. Et là, on fausse tout dans nos expériences. Nos expériences sont plus vraies. Tous, on est comme ça. Hein. Le premier, je le reconnais. Et il faut être lucide là-dessus pour déceler les motifs vrais de nos expériences humaines. Et puis, quand on est très pressé, ce qui arrive assez souvent dans notre vie d'aujourd'hui, on ne voit plus les différents aspects qui sont autour de nous. Quand on est très pris par la passion, on ne voit plus rien que notre passion. On a un prisme. On est pris par l'imaginaire. Si on est un poète, on réfléchit à la philosophie de l'an 2000, qui n'existe pas encore. Mais on y réfléchit et on croit faire de la philosophie. Non, on est prophète. Le prophète n'est pas philosophe. Le prophète, il dit d'avance les choses qui arriveront. Et il croit les dire. C'est très difficile d'être philosophe dans un monde comme aujourd'hui, où la propagande est si forte, où les médias sont persuadés qu'ils forment une mentalité, ce qui est vrai du reste, ils forment une mentalité. Ça nous met un petit cocon. Et on a une peine énorme à découvrir la vérité et à rester dans la vérité. Vous voyez, Rostand, dont j'ai connu très bien un de ses amis très intimes, disait, dans les dernières années de sa vie, je crois que c'est dans mon salon que le dimanche, on parle le plus de Dieu. C'est-à-dire qu'on cherche à savoir si Dieu existe. Et il disait, c'est son ami encore une fois qui me répétait ça, mais un ami qu'il aimait beaucoup, qui était du reste un professeur à la faculté de médecine à Paris. Il disait à son ami, je crois si j'ai tellement de peine à découvrir l'existence de Dieu, c'est que si Dieu existe, il est nécessairement bon. Ça ne peut pas être autrement. Et que je vois tellement de mal dans l'univers, dans la vie biologique, chez les animaux. Alors je me dis, comment ça peut être? Vous voyez, c'est curieux, parce qu'il soulevait l'objection que Thomas d'Aquin soulignait déjà au Moyen-Âge. La plus grande difficulté pour nous de découvrir, philosophiquement, hein, je parle, de notre intelligence, pas de la foi, de découvrir l'existence de Dieu, c'est cette expérience du mal, cette expérience de l'erreur. Comment se fait-il que l'erreur se propage beaucoup plus vite que la vérité? C'est un fait. Les erreurs, on a l'impression que ça, c'est la gangrène généralisée. Et on est pris par ça. La vérité, comme c'est difficile à propager. Comme c'est difficile d'être témoin de la vérité. Et Rostand disait, à la fin de sa vie, je crois que si j'ai tellement de peine, c'est parce que dans mon enfance, je vivais dans un milieu purement positiviste et scientiste. Mais il essayait. C'est beau, c'est très grand. Chercher en face des progrès de la science, qu'est-ce que c'est que la vérité? Oui, c'est sûr que dans notre monde d'aujourd'hui, c'est un problème extrêmement difficile. Parce qu'on va voir, on est forcément dans une montée délicate ce que j'aime de rappeler souvent, parce que c'est Peggy, qui n'est pas un philosophe, mais qui était un homme intelligent. Je crois que tout homme intelligent est philosophe, pour moi, puisque la philosophie n'est pas une spécialité. La philosophie, c'est pour rendre l'homme intelligent. La philosophie est au service de l'homme, et au service de l'intelligence, et du cœur par le fait même. Ce n'est pas une idéologie, on verra tout à l'heure. L'idéologie, c'est dominer l'homme. Et la philosophie, c'est servir l'homme. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On essaie, comme on peut, de découvrir le petit sentier. Et Peggy dit ceci, le philosophe, c'est celui qui remonte à la source. C'est difficile de remonter à la source. C'est pénible de remonter à la source. Parce que remonter à la source, c'est très souvent être seul. Et c'est vrai que la philosophie vous met un peu dans la solitude. Mais une solitude forte, pas une solitude vide, puisqu'il y a une recherche de vérité. J'aime beaucoup cette définition de Peggy. C'est pas une définition, c'est une attitude. Ça rejoint l'attitude de Platon d'une certaine manière. La recherche de la vérité, remonter à la source, c'est Platon. Aristote, remonter à la source. Et Peggy, alors, tout de suite, voit l'autre attitude. C'est facile de descendre le fleuve. Tout le monde descend le fleuve. Et Peggy ajoute, les cadavres descendent plus vite que les autres. Donc ceux qui arrivent les premiers en descendant le fleuve, cadavres. On ne pense plus. On est téléguidé. On descend le fleuve. Cadavre de l'intelligence. Vous comprenez bien. Celui qui n'exerce plus son intelligence, qui ne recherche plus, il descend le fleuve. Mais quand vous demandez à quelqu'un pourquoi il fait cela, qui vous donne comme réponse, tout le monde le fait. Aujourd'hui, on fait des lois parce que tout le monde le fait. Cadavre. Et c'est vrai. La loi doit être un tuteur qui nous aide à aller plus loin, à être plus homme, à découvrir la vérité. Quand vous entérinez une loi, parce que tout le monde le fait, vous avez la spiritualité des cadavres. Et ça va vite. Ça descend vite. Très très vite. Vous remontez le fleuve. Sans a priori. En recherchant par l'expérience la vérité. Parce que c'est ça, la recherche de la vérité. On le verra. Et c'est bon d'essayer au point de départ de comprendre dans quelle mentalité nous nous mettons. C'est le bien de l'homme, la vérité. Encore plus que la liberté. Je sais bien quand je dis ça, pas beaucoup sont d'accord. Hein. Mais avoir la vérité et être dans l'erreur, c'est pas très drôle. Parce que très vite on s'aperçoit qu'on n'aura jamais le bonheur. On est dans l'erreur. Avoir la liberté, être malade, être vraiment très malade quant à l'intelligence, c'est une fausse vérité, c'est une fausse liberté. Parce que c'est l'intelligence qui nous rend libres. C'est ça qui est extraordinaire. Ça, on le sait très bien. Vous voyez, des matières qu'on n'a pas du tout étudiées, cherche à avoir des amis dans ces différentes matières avec qui on pourra discuter franchement, librement. Et on n'écoutera pas les propagandes parce qu'on ne saura jamais si c'est juste. Tandis qu'au contraire, un ami, on essaie. On peut pas tout connaître aujourd'hui. C'est impossible. C'est absolument impossible. Mais on essaie d'avoir des amis. L'ami nous prolonge et nous permet de voir plus clair. Un ami, on pourra discuter avec lui. Franchement. Et on redécouvrira des tas de choses avec lui. Tandis qu'au contraire, si vous n'avez pas d'amis, et que vous n'êtes pas informé, vous ne pourrez pas discerner. La vérité est liée au discernement. Et c'est vrai. Toute vérité implique un discernement, implique une analyse. Vous pouvez analyser, voir. Parce que ordinairement, la vérité est mêlée d'une quantité de choses qui ne sont pas justes, qui sont mêlées. Mêlée de boue, mêlée de plomb, mêlée de paille. C'est mêlé. Et pourtant, il y a quelque chose de juste. Alors, il faut pouvoir discerner cela. De sorte que cette recherche de la vérité est une chose difficile dans notre monde d'aujourd'hui. Parce que c'est tellement difficile d'avoir une information qui soit vrai. Quand on est obligé tous les jours d'avoir un programme qu'il faut remplir, on voit très bien comment ça se remplit pour la télévision. On fout des tas de choses. Il le faut. C'est nécessaire de tenir le programme. Et par le fait même, on ne recherche plus la vérité. Et je comprends que c'est difficile du reste, parce que la vérité n'est pas toujours agréable à recevoir. C'est pas toujours commode. Et les hommes d'aujourd'hui aiment mieux les choses plus faciles. On veut les choses très rapides. On a de la peine à pouvoir réfléchir et méditer. Parce que tout va tellement vite. Alors, c'est difficile la recherche de la vérité aujourd'hui. C'est difficile la recherche de la vérité aujourd'hui parce que on est dans un climat aussi très psychologique. La plupart du temps, on stagne le pouls psychologiquement. J'espère que ce matin, vous êtes tous de bonne humeur, alors ça va très bien. Et peut-être que ce soir, vous serez moins bonne humeur. Ça sera plus difficile à recevoir. Alors, on confond vérité et sincérité. On est sincère. Ça, tout le monde comprend la sincérité. Mais la vérité n'est pas la sincérité. Et c'est difficile de discerner les deux. On est dans un climat de confusion constante. Je sais que ça a toujours été un peu comme ça. Vous savez, ce que disait Cicéron, parole, et Cicéron est un orateur, mais un grand orateur. C'est une parole que j'aime beaucoup, de Cicéron. Chaque sénateur est intelligent, mais le Sénat est bête. C'est quand même intéressant d'entendre une parole comme celle-là. Et je me souviens, une fois, j'avais prêché à des aumôniers militaires. Ils étaient 450. C'était sitôt après la guerre du Vietnam. 450 aumôniers militaires qui étaient passés par la guerre du Vietnam, qui étaient passés par toutes les autres guerres avant. C'était dur. Et j'étais encore jeune. Alors j'ai commencé par dire cette parole de Cicéron. J'ai dit, chaque sénateur est intelligent et le Sénat est bête. Je vous avertis que chaque aumônier militaire est sûrement très intelligent, avec toutes ses expériences. Mais quand ils sont ensemble, je me demande s'ils sont encore intelligents. Et ceci, c'était pour qu'ils entrent dans le silence. Pour qu'ils acceptent le silence. Dans le silence, on est seul. Et quand on fait une retraite seule avec Dieu, alors on devient intelligent. C'est quand même bien. Tandis que quand on bavarde et qu'on parle énormément, quelquefois ce n'est plus la recherche de la vérité. C'est tout simplement la recherche de notre opinion qu'on veut à tout prix qu'elle l'emporte. Et c'est vrai qu'une recherche de la vérité, au-delà de la sincérité, exige un certain silence. Alors on ne fait pas la session dans le silence, mais quand même, j'aimerais beaucoup que le matin, ce soit très silencieux, pour que vous puissiez tous un peu réfléchir, travailler, et prier. Ceux qui le désirent. Parce que je crois qu'on ne peut pas faire une vraie session philosophique sans un certain silence. L'après-midi, il y aura des carrefours. Alors vous pourrez parler. Il y aura plus de discussions du reste l'après-midi, c'est bien. Mais le matin, si on veut travailler un peu normalement, c'est le matin. Réfléchir sur ce qui a été dit. Sur les points sur lesquels vous aimeriez qu'on pousse au carrefour, vous le direz. Le carrefour, c'est quelque chose d'intermédiaire entre le point de vue de ces petites causeries que nous avons ensemble et puis de vos réflexions. Vous verrez, on divisera la session et qui va l'assister au carrefour en plusieurs groupes pour pas être trop nombreux. Et puis un frère ou deux frères, je crois que c'est bon qu'il y ait deux frères, qui seront là pour vous aider et pour recevoir vos objections, vos questions. Ils répondront comme ils peuvent. Puis si la discussion est trop forte et qu'on voit pas, on essaiera de reprendre ensuite. Pour qu'il y ait un vrai dialogue entre nous. C'est très difficile de faire autrement, parce que si on commence pendant la petite causerie, la petite conférence du matin, à poser toutes ces questions, pour l'un c'est très bon, mais pour l'autre ça va pas. Je crois qu'il vaut mieux que le matin, il y ait une petite causerie continue, et puis vous notez les choses que vous aimez, que vous aimeriez qu'on précise davantage. Qu'on aille plus loin. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, vous soulignez. Ah, je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, si vous ne comprenez pas, il y a des mots philosophiques de temps en temps. J'essaie d'en employer le moins possible. Mais il y a quand même un langage philosophique. Et ce langage philosophique, c'est forcément un langage philosophique que chaque philosophe a. Et qu'il se fait. Je dis de temps en temps à mes étudiants ce qui est une vérité. Je crois que je suis le plus vieux professeur de philosophie. Donc c'est une qualité et un défaut. Il y a un envers de la médaille. C'est pas le plus jeune des professeurs de philosophie. Je pourrais vous en donner un ici, n'est-ce pas ? Le plus jeune des professeurs de philosophie. Mais je suis le plus vieux puisque j'enseigne la philosophie. Une année avant la dernière guerre. Vous voyez que ça compte. Et je vais continuer tout le temps. À Fribourg, limite d'âge, à l'université. Quand j'ai dit ça au Saint-Père, Saint-Père a levé les épaules, dit, qu'est-ce que ça signifie, la limite d'âge pour un philosophe? Alors j'ai dit, oui, mais je suis, tout en étant français, je suis citoyen helvétique, fonctionnaire helvétique, ce qui est mieux, puisque j'enseigne à l'université de Fribourg, et forcément, en tant que fonctionnaire helvétique, il y a une limite d'âge. Il faut laisser la place aux plus jeunes, je comprends très bien. J'étais jusqu'au bout de mon temps, ça pouvait aller quand même assez loin. On allait jusqu'à 70 ans. C'est déjà quelque chose. Et quand j'ai quitté Fribourg avec 80 jeunes philosophes derrière moi. C'était la communauté Saint-Jean qui commençait. Et qui a commencé dans le creuset philosophique. C'est quand même curieux, dans le creuset philosophique. Comme quoi la philosophie de temps en temps est efficace. Il faut croire qu'elle est complètement inefficace. La vérité nous libère. Nous le verrons, ça. Et la vérité permet, quand il y a une vraie recherche de vérité, on sent que les jeunes recherchent cela. Surtout aujourd'hui. Et ils le recherchent terriblement. Même si extérieurement, ils ne le montrent pas. Je voyais ça encore hier, à Chalon. Puisque les premiers qui sont venus auprès des frères à Chalon, c'était une communauté de jeunes, qu'on peut appeler par tous les noms, si vous voulez, peu importe, ils étaient 15. C'est beau. C'est les premiers. D'autres disent, oh, qu'est-ce que c'est que ces gens qui arrivent? Eux, tout de suite. Et ils sont mis à travailler avec eux. Et ils sont les amis maintenant, les plus immédiates. Mais il reste ceux qui sont. Il y en a un plus jeune qui était là. Alors j'ai demandé, est-ce qu'il fait partie du groupe? Ah, oh, pas encore, trop jeune, trop jeune. Il n'a que 15 ans. Nous sommes des durs. Il faut au moins avoir 18 ans. Alors à ce moment-là, ça va. C'est curieux, ça. Combien les jeunes d'aujourd'hui ont soif de vérité. Vous voyez, c'est là où les propagandes servent à quelque chose. Parce qu'on prend l'anti-propagande. Une fois qu'on a compris que les propagandes viciaient tout. On veut savoir quand même la vérité. On veut savoir le vrai. Les meilleurs, les plus, ceux qui ont le plus dans le cœur quelque chose. Alors, si on fait une philosophie d'expérience, l'expérience demande du temps. Lire les livres, ça peut aller assez vite. Mais l'expérience est surtout une expérience qui doit profiter. Ça met du temps. Et on découvre tout le temps, au plan philosophique, au plan métaphysique, on découvre tout le temps quelque chose de nouveau. C'est ça qui est merveilleux. C'est infini. La recherche de la vérité, c'est infini. Il faut qu'on mette le petit doigt dedans. C'est infini. Et je vous affirme, je ne relis pas, mais les premiers cours que j'ai donnés, puisque je les ai vite renvoyés. Je me dis, mais comment je pouvais enseigner ça par mode d'autorité? Forcément, si tu restes mieux par mode d'autorité que dire des bêtises, puisqu'on prend quand même des maîtres et des grands maîtres. Un Platon, un Aristote, ce sont des maîtres de l'humanité. Ça c'est sûr, ce sont des maîtres pour l'humanité. Je ne sais pas parmi les modernes d'aujourd'hui, si dans 2000 ans, on en parlera encore. Oui, pour faire des thèses, mais pas autrement. Parce qu'on aime bien dénicher un ignorant, ou un ignoré plus exactement, pour faire une thèse. Il y a beaucoup de poussière. Thank you.
européenne est une source, au point de départ surtout, de toute une recherche philosophique. On ne peut pas nier. Il y a la philosophie de l'Inde, on ne peut pas tout voir. Comme on est en Europe, je prends la philosophie européenne. Mais je connais des amis qui sont spécialistes de l'Inde et de la philosophie de l'Inde.
Okay.
vous avez pour notre Europe. La grande période. Des pères de l'Église et des théologiens. Alors ça, c'est une période très curieuse. J'irai très vite là. J'en parlerai l'après-midi. Et puis, il y a la libération, la philosophie de la libération, de l'intelligence, de la raison, de l'entendement, puisqu'il faut prendre son terme, que Descartes fait par rapport à la théologie. Quand ils ne sont plus assez intelligents, deviennent très vite dominateurs. Ils sont la vérité. Et alors ils s'étouffent. Alors qu'ils devraient être ceux qui éveillent et qui vont plus loin parce qu'ils ont une lumière.
même pas mal de variétés. Et on pourrait dire que Hegel est le philosophe moderne qui joue un rôle capital dans la philosophie contemporaine. Absolument capital. On l'a dit, et je crois que c'est vrai, ce que Aristote était au Moyen-Âge, Hegel l'est pour notre philosophie actuelle, et même pour notre théologie actuelle. Ceci, c'est pour montrer ce vol, n'est-ce pas, aérien. Et on est, je crois qu'on ne peut pas philosopher vraiment sans tenir compte de tout cela. Il y a un patrimoine philosophique. Un patrimoine philosophique européen de l'Inde. Et puis il y a la philosophie contemporaine qui part un peu dans tous les sens. Ça, il faut le reconnaître. Ça part dans tous les sens. Alors je regarde premier moment de cette philosophie. Hésiode, 8e siècle avant Jésus-Christ. Vous savez comment on compte? Si on prend la date de notre calendrier d'aujourd'hui, ben, 8e siècle, c'est ce qu'il y a de plus ancien point de vue philosophie grecque. Hésiode, c'est un homme très curieux. J'aurais aimé avoir un petit dialogue avec Hésiode. Hésiode a pris les deux extrêmes de la philosophie. Et c'est ça qui me semble le plus intéressant chez lui. Une philosophie du travail. Le travail et les jours. C'est comme ça qu'il regarde l'homme. Et une philosophie. Et une théologie. La théogonie. La théogonie, vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire la genèse des dieux. La génésis, la genèse des dieux. Alors il a rassemblé toutes les traditions religieuses. Il a essayé d'être le théologien de ces traditions religieuses. À ce point de vue-là, il est le premier théologien d'une théologie naturelle, sans faire appel à la foi. Uniquement les traditions religieuses. Et il a réfléchi sur ces traditions religieuses. Il a voulu mettre un ordre dans ces traditions religieuses, dans cet Olympe. Vous voyez comme c'est curieux et comme c'est intéressant. Tout de suite, deux attitudes extrêmes qui sont dans l'homme. L'homme est un travailleur. L'ordinateur intérieur qui compte le nombre d'heures vous avez travaillé pendant votre vie, aussi le nombre de sommeil, et puis les temps de détente, de plaisir, qu'est-ce que vous verriez? Vous verriez que l'homme, je crois, un homme normal, et une femme aussi, encore plus, c'est le travail qui l'emporte. C'est le travail qui l'emporte. Le nombre d'heures qu'on a travaillé dans sa vie. Je ne compte pas, parce que mon ordinateur ne fonctionne que depuis très peu de temps, n'est-ce pas? Alors, je ne compte pas le nombre d'heures de travail. Je le verrai, j'espère, dans l'éternité. Tout le travail qu'on a fait, tout le boulot.
du travail. Le travail conduit à l'efficacité. Parce qu'un travail qui est un pur travail sans aucune efficacité, c'est très très fatigant. Et puis, on s'arrête. Et puis, il y a dans l'homme une étincelle que les Grecs appelaient l'étincelle du divin. Il y a en l'homme une aspiration au-delà de l'aspect temporaire, au-delà du travail. Pour le Grec, c'était cette étincelle du contemplatif qui regarde, non pas du tout pour fuir la terre, mais qui regarde quelque chose qui dépasse toute théogonie. Alors je vous lis ce petit passage de la Théogonie. Théogonie, verset 23-35. Ce sont les muses qui, à Hésiode, un jour, apprirent un beau chant alors qu'il paissait ses agneaux au pied de l'icône divin. Alors voici les premiers mots qu'elles adressèrent à Hésiode. Muse de l'Olympe, déesse, fille de Zeus, qui tient l'égide. Alors voici, pâtre, gité au champ, triste opprobre de la terre, qui n'est rien que vent. Nous savons compter des mensonges tout pareils aux réalités. Mais nous savons aussi, lorsque nous le voulons, proclamer des vérités. C'est cela qui a fait que depuis pas si longtemps, ça fait 30 ans, je crois, à peu près, on considère qu'Hésiode est le premier philosophe grec. Avant, on comptait Hésiode parmi les poètes. Et les philosophes comprenaient ça avec un peu de mépris. C'est très curieux, depuis 30 ans, combien l'art a pénétré la philosophie. C'est récent, ça. Le rationalisme du XVIIe siècle avait mis très loin l'art. Tandis qu'on ne peut pas nier Heidegger est poète à la manière de Platon. Et que depuis, alors, on est beaucoup plus attentif à ce que l'art peut apporter à la philosophie. Et alors, en fonction de ça, on a remarqué cette phrase d'Hésiode qui est si significative quand il s'adresse justement aux muses de l'Olympe, aux filles de Zeus, ces déesses, peintres, gîtés aux champs, triste opprobre de la terre, qui n'est rien que ventre. L'homme qui ne cherche qu'à se nourrir, qui n'a pas d'autre occupation que l'efficacité, voilà comment il les regarde. Nous savons compter des mensonges, tout pareil aux réalités, des réalités vraisemblables, des symboles vraisemblables. Mais nous savons aussi, lorsque nous le voulons, proclamer les vérités. La distinction entre le mythe et la vérité. Je crois que c'est le premier moment. Et c'est le premier moment où il fait cette distinction. Quand nous le voulons, nous pouvons chercher la vérité et proclamer des vérités. Ainsi parlèrent les vies véridiques du grand Zeus. Et pour bâton, elles m'offrirent un superbe rameau, par elles, détaché d'un laurier florissant. Le symbolisme de la
Cependant, qu'elle m'ordonnait de célébrer la race des bienheureux, toujours vivants, et d'avoir, et d'abord elle-même, au commencement, ainsi qu'à la fin de chacun de mes chants. Donc, il considère que sa théogonie est sous l'inspiration des vies de Zeus, sous l'inspiration de ses muses. Et il considère que ces muses, qui sont source de la poésie, il ne faut pas l'oublier, n'oubliez pas ce que Claudel dit des muses, source de l'inspiration, et donc qui permettent au poète de discerner au-delà du sensible quelque chose de sacré. Considère que les muses sont capables de donner au poète une recherche de vérité. Et ça, c'est tout à fait nouveau, alors. C'est pour ça qu'Hésiode est le premier moment d'une philosophie qui naît à l'intérieur des traditions poétiques et religieuses et qui arrive à faire ce discernement que Heidegger reprend avec force, pour vous montrer qu'on est tout proche de tout cela, le moutos et le logos. Et Heidegger prend ça avec force, le moutos, le mythe, et le logos, la recherche de la vérité, le logos grec. Et ça, c'est très important de voir à travers ce nuage qui enveloppe l'humanité. Et c'est vrai, les traditions religieuses, les traditions poétiques, c'est toujours un peu ténébreux. C'est beau, mais c'est ténébreux. Voir ce moment où vous avez un nuage commence à montrer le ciel bleu. Dans les montagnes, c'est très émouvant, ça. C'est très poétique, c'est très émouvant de voir ça. De voir que percée grâce au vent. Et le vent, symboliquement, c'est les muses. Le vent, symboliquement, c'est l'inspiration. Et qui fait cette déchirure à travers ce nuage ténébreux de la perspective du ciel bleu, qui est la vérité. Il faut pas oublier ce passage, parce qu'il est beau. Ensuite, on va découvrir les premiers philosophes grecs qu'on appelle les pré-socratiques. On n'aime pas beaucoup cette expression aujourd'hui, parce que quand on dit pré-socratique, ça veut dire qu'on considère que Socrate est le seul philosophe. Et alors, à partir de lui, elle est commode, cette distinction. Il ne faut pas dire que les pré-socratiques ne sont pas des philosophes, ce sont des philosophes. Mais des philosophes avec un langage encore très symbolique. Et c'est pour ça que ces premiers philosophes sont si intéressants pour nous. Parce qu'ils nous montrent comment le logos, la raison, va naître à partir de ces traditions religieuses. Chez Héraclite, vous voyez, 6e siècle avant Jésus-Christ, donc on passe du 8e au 6e, il n'y a pas grand-chose entre deux. Parmi les phénomènes sont vrais ceux qui apparaissent généralement à tous, et faux ceux qui ne sont pas tels. Alors vous voyez, un discernement ici entre les phénomènes. Le phénomène, qu'est-ce que c'est? Ça vient du grec, hein? Phénomène. Phénomène, c'est ce qui apparaît. Le phénomène, c'est ce qui apparaît. C'est la vérité encore mêlée à des images, à des sens.
Et je respecte ce phénomène, du reste. Ce phénomène ambulant. Et puis petit à petit, quand on arrive à se connaître dans un dialogue, le dialogue, c'est la découverte, au-delà du phénomène, du logos, de l'invisible, que nous portons tous en nous. Et c'est tout à fait le début de la philosophie, mais ça c'est intéressant. Ça rejoint un tout petit peu ce que dit, justement, ce que je disais tout à l'heure, à propos de la recherche de la source et ce qui apparaît, Peggy. C'est très parallèle. Le phénomène, tout le monde le voit. Le phénomène, la plupart du temps, c'est la descente. Descente du fleuve, le logos, la découverte de la vérité, la découverte de l'invisible. Alors, je reprends ces paroles d'Héraclite. C'est un petit fragment, n'est-ce pas, d'Héraclite, puisqu'on n'a que des fragments d'Héraclite. Alors, peu importe, je ne vais pas vous donner et citer tous ces fragments, mais c'est intéressant de voir ce fragment d'Héraclite. Vous la gardez comme une petite pierre précieuse. Les fragments, vous voyez, c'est comme quand vous savez, quand vous visitez, point de vue archéologique, des sols dans lesquels il y a des mosaïques et il y a ces tout petits cailloux grecs de couleurs différentes et tous les petits cailloux, des petits cubes, des petits carrés qui formaient la mosaïque. La mosaïque est devant vous, voyez tout le paysage. Mais quand vous n'avez plus qu'un petit sac de cailloux, vous les regardez, puis vous essayez de voir ce que ça veut dire. Alors vous avez plusieurs petits cailloux ensemble. C'est un fragment. Mais vous ne voyez pas la synthèse. La synthèse, on la recompose. On a toute une série de fragments. C'est intéressant, du reste, de recomposer ça, mais ce qui fait comprendre que cette philosophie avant Socrate est très difficile. Mais il y a des perles comme ça. Parmi les phénomènes sont vrais ceux qui apparaissent généralement à tous, et faux ceux qui ne sont pas tels, d'où il suit que l'on a donné fort exactement le nom de vrai à ceux qui ne se cachent pas à la connaissance commune. Le vrai et ceux qui ne se cachent pas exactement la définition de Heidegger. Qu'est-ce que c'est que le vrai? C'est ce qu'on dévoile. La vérité se dévoile. Ah, l'était-ce, l'était caché. Ah, non caché. La vérité, c'est ce qu'on dévoile. Vous voyez, la vérité, le vrai, c'est ce qui ne se cache pas. Quand vous êtes caché, vous n'êtes pas vrai pour ceux qui vous regardent. Quand vous dévoilez, ah, vous êtes vrai. Allez, on fera ça avec Heidegger. Mais c'est intéressant de le trouver dans Héraclite. Pour vous montrer que cette philosophie grecque reste source, peut-être lointaine, mais source de notre philosophie européenne, et même actuelle. De tous ceux dont j'ai entendu les paroles, aucun n'arrive au point de reconnaître que le sage est séparé de tous. Le sage, c'est celui qui fréquente. Le vrai, c'est celui qui cherche la vérité. On peut dire ça chez les Grecs. Le sage, c'est celui qui recherche la vérité. On est sage dans la mesure où on recherche le vrai et la vérité. Qu'on ne reste pas aux apparences, qu'on ne reste pas dans la description du visible, mais qu'on recherche la source. C'est ça le sage. Et le philosophe, c'est l'ami Sophia. C'est ça, étymologiquement. Étymologiquement, le philosophe, c'est celui qui est l'ami du sage. On ne se considère pas comme sage, parce que c'est très de mauvais goût de dire « je suis un sage ». Écoutez-moi, je suis un sage. Tandis que vous pouvez dire « je suis un ami de la sagesse ». Je tourne autour. C'est pas du tout la même chose. Je la recherche. Je recherche la vérité. Je recherche la sagesse. Alors, troisième fragment d'Héraclite. Très haute vertu. Donc, réfléchir, c'est une très haute vertu. La sagesse, dire la vérité. Et agir selon la nature en le sachant. Donc, le sage dit la vérité. Le sage agit selon la nature en le sachant. Donc, il y a un lien très net entre vérité et sagesse. On le verra ça. Qu'est-ce que ça représente exactement? Le lien entre science et vérité, sagesse et vérité. C'est un des points très importants qui est déjà soulevé avec Héraclite. Puisque la sagesse, c'est dire la vérité. Vous n'êtes dans la sagesse que quand vous dites la vérité. Dès que vous ne dites plus la vérité, vous êtes avec les insensés. Les insensés vivent des apparences. Et ils se conduisent selon les apparences. Ils sont insensés, tandis que le sage cherche la vérité. Alors, face à Héraclite, donc encore au 6e siècle avant Jésus-Christ, il y a Parménide. C'est les deux grands présocratiques, Héraclite et Parménide. Et c'est très important de comprendre cela. Héraclite d'Éphèse. Ah, Héraclite d'Éphèse. C'est le premier philosophe d'Éphèse. Et c'est le premier philosophe qui découvre le Logos. Alors, ceux qui connaissent Éphèse, ceux qui savent que Saint Jean est mort à Éphèse, c'est quand même intéressant de voir que le premier philosophe a parlé du Logos. Et ceux qui connaissent Saint Jean savent que dans le prologue de Saint Jean, Saint Jean parle du Logos. Alors vous avez Héraclite d'Éphèse, 6e siècle avant Jésus-Christ, et Jean d'Éphèse, le prologue de Jean. Alors faisons attention, hein. Il y a le même mot, mais les significations sont différentes. Et pour Héraclite, le Logos permet d'être au-delà du Pantareï. Le Pantareï d'Héraclite, il faut connaître ça, tout coule, tout change. Giscard avait parlé du Pantareï. Au point de vue politique, tout change, tout change. Donc il ne faut plus de loi, tout change. Il faut se mettre dans la descente du fleuve. Pantareï, tout coule. On ne peut pas descendre deux fois dans le même fleuve. Ce qui est vrai, surtout dans un torrent. Parce que ça coule très vite dans un torrent. Et on est dans le torrent, parce qu'on se rapproche de la source. Quand on est dans la vallée, ça va lentement, lentement, lentement. Tandis que quand on se rapproche de la source, oulala, ça va très très vite. Alors tout change. Vous ne pouvez pas descendre deux fois dans un petit torrent. Vous restez selon les apparences. Parce que si vous êtes un sage, vous dites, mais c'est toujours de l'eau. Et c'est ça que je cherche. C'est l'eau que je cherche. Et donc je peux descendre deux fois. Et j'ai l'eau semblable, la même eau. Vous voyez, le Logos découvre la vérité intérieure.
et ce qui est intérieur, et que du côté de l'apparaître, pour eux, tout coule. Il n'y a pas de vérité. Tout coule. Ce que je dis maintenant n'est plus, dans 2 minutes, la même chose. Pas de taille. Parce que c'est le fleuve, la parole. Pour un raideur, c'est un fleuve. Et plus on est raideur, plus il coule vite. Pour le philosophe, il faut méditer au-delà des apparences, découvrir le logos, la vérité. Alors, Parménide, c'est tout à fait autre chose. Parménide, délai. Et les, vous voyez où ça se trouve, hein. Éphèse, je crois, vous voyez très bien. Mais Élée, ah Élée, c'est de l'autre extrémité. Hein. C'est l'école d'Élée Parménide. C'est l'école très très belle, des philosophes inspirés. Hésiode est un philosophe de l'expérience. Parménide est un philosophe inspiré. Alors, il y a le poème de Parménide. Il faudrait lire tout entier le poème de Parménide. Il faut que, quand on est un peu philosophe, il faut tous les ans lire le poème de Parménide. Il y aurait la liturgie philosophique du poème de Parménide. Il y aurait la fête de Parménide. On aurait institué la fête de Parménide avec le grand poème de Parménide qu'on relirait tous les ans. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est l'exultète du philosophe, vous voyez. C'est quelque chose de merveilleux. On demandera à Sanve de faire la musique du poème de Parménide. Il y en aura un, comme ça. Parce que Parménide, c'est quand même, au plan philosophique, et au plan philosophique grec et européen, quelque chose de tellement grand. Sagesse. salut. Car ce n'est pas un destin funeste qui t'a poussé à suivre cette route, car elle est en dehors du sentier des hommes. Montez à la source, retrouvez la source. Elle est en dehors du sentier des hommes, mais c'est la loi divine et la justice. Je me dois donc de t'instruire de toutes choses, du cœur inébranlable, de la vérité bonne à croire. Alors, comprenons bien, bonne à croire, c'est le pistis grec. La croyance, c'est une adhésion à quelque chose qui nous dépasse. La vérité nous dépasse toujours. Donc, il faut une adhésion. On y adhère. On adhère à cette vérité qui est montrée par la déesse. Alors, vous voyez, c'est très beau comme la manière dont elle me le dit. Je me dois donc de t'instruire de toute chose, du cœur inébranlable, de la vérité bonne à croire, et des opinions des mortels dans lesquelles il n'y a pas de foi véridique. Donc, discernement entre la vérité au cœur inébranlable. C'est à l'intérieur, c'est le cœur. Vous voyez que la vérité est tout de suite liée à l'amour. Le cœur. Il y a un cœur inébranlable. Parce que ce cœur inébranlable est la vérité. Et les deux se tiennent. Et on oppose cette vérité aux opinions des hommes. Les opinions n'atteignent pas la vérité. Les opinions des mortels, dans lesquelles il n'y a pas de foi véridique. Adhérer aux opinions, c'est adhérer à un flux constant, des choses qui passent tout le temps. Et alors il faut adhérer à quelque chose qui dépasse le point de vue tout à fait matériel des opinions des mortels et adhérer à quelque chose de plus. Cependant, tu apprendras aussi comment les choses qui apparaissent doivent être considérées, menant à travers tout, toutes choses à leur terme. Et un peu plus loin, puisqu'on n'a pas le poème complet, on a encore des fragments, mais on a de gros fragments pour Parménide. Eh bien, allons, je vais te dire, moi, mais toi, écoute ma parole et garde-la. Quelles sont les seules voies de recherche à penser? La première, qu'il est, et qu'il est impossible qu'il ne soit pas. C'est le chemin de persuasion, car il suit la vérité. L'autre, qu'il n'est pas, et qu'il est nécessaire qu'il ne soit pas. Cette voie, je te le dis, est un sentier de totale incrédulité. Car tu ne saurais ni connaître le non-être, le non-étant. Il n'est en effet le terme de rien, ni l'énoncé. Alors voilà la révélation, parce que c'est une sorte de révélation que fait la déesse à Parménide, la distinction entre ce qui est et ce qui n'est pas. L'opinion des hommes repose sur ce qui n'est pas et donc ne peut pas être quelque chose à laquelle on peut adhérer puisque ça passe. C'est un flux. C'est vrai aujourd'hui et demain ce ne sera plus. Donc on ne peut pas adhérer dessus. Ce n'est pas le roc sur lequel on adore. Seul ce qui est. Donc Parménide, pour la philosophie grecque, pour notre philosophie européenne, est le premier